Radio Kapi.
Fulbert Balolagué pour la présentation.
Une stratégie de gouvernance foncière pour une période de 9 ans est mise en place à l'issue de la conférence sur la gestion durable des terres en Afrique qui s'est clôturée vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Nord Kivu, des affrontements sont signalés ce dimanche matin vers Kilorirwe. C'est sur l'axe Sake-Kichanga dans le territoire de Masisi. Des sources parlent d'attaques des rebelles du M23 sur des positions des FARDC pendant ce temps. MSF déplore l'escalade des violences armées qui l'empêchent d'intervenir dans des zones d'accès difficiles au Nord Kivu. Plus de 650 déplacés venus des quatre sites de Bounia ont reçu une aide humanitaire en cash du HCR. Et pour en parler, nous recevons Ulrich Nubisi, chef de bureau par intérim du HCR Bounia. Il nous parle des solutions durables à envisager par les HCR pour aider les déplacés. Madame, Monsieur, bonjour. Ouvrons ce journal en vous disant qu'une stratégie de gouvernance foncière pour une période de 9 ans est mise en place à l'issue de la conférence sur la gestion durable des terres en Afrique qui s'est clôturée vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Selon les organisateurs, l'objectif est de veiller à ce que les terres soient administrées de manière équitable afin de promouvoir des moyens de subsistance à tous et un développement socio-économique durable de l'Afrique. Les détails avec Isaac Remoyope, de retour d'Addis Abeba en Éthiopie.
Cette stratégie mise en place par l'Union africaine pour la période 2023-2032 aborde trois questions essentielles: la sécurité foncière, la planification de l'utilisation des terres et les investissements fonciers. Parmi les priorités de cette stratégie, renforcer la capacité de la Commission de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et des États membres à mettre en œuvre l'agenda de l'Union africaine en matière foncière, promouvoir l'avancement des politiques foncières, des lois et des systèmes d'administration et de gouvernance foncière responsables dans les États membres, promouvoir des investissements fonciers responsables et équitables en Afrique qui contribuent au développement de chaque État et qui répond aux besoins de la communauté, renforcer la sécurité foncière et l'accès à la terre et aux autres ressources productives pour toutes les couches de la population, et afin faciliter et soutenir l'opérationnalisation du suivi et de l'évaluation des terres. Des actions concrètes sont prévues pour chaque priorité pour l'effectivité de cette stratégie contenue dans un document de 74 pages. Selon les organisateurs, la finalité de cette démarche est que les terres soient utilisées au profit de tous les membres de la société, la réduction de la pauvreté, la résolution des conflits liés à la terre, mais aussi promouvoir la stabilité et la prospérité de l'Afrique. Des retours d'Addis Abeba, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Programme de développement local de 145 territoires sous la gestion de la cellule de financement en faveur des États fragiles. L'école Kintata, l'une des écoles de la province du Congo central, opérationnelle il y a 2 semaines, fait la joie des enseignants, des parents et des élèves. Une école de 6 salles de classe, des bureaux administratifs, un bloc sanitaire. C'est ce qu'a constaté Paul Matendo, notre envoyé sur place. Il nous fait ses récits depuis Boma, dans le Congo central.
Parmi les parents, une jeune femme, Mamouke Bwanga, qui a inscrit 4 enfants dans cette école. Elle affirme que depuis la rénovation des bâtiments, ses enfants ont cessé de faire l'école buissonnière. Maintenant, nous sommes très contents. Mes enfants sont attirés par ces nouveaux bâtiments. Ils ne font plus l'école. Ma maison est très proche d'ici. D'abord, on avait les anciens bâtiments, mais maintenant, on a de nouveaux bâtiments. Pour Aloïs Tamba, directeur de cette école, Kintata, secteur de Lofu dans les territoires de Sikebanza, ce qui était rêve est finalement devenu réalité.
Pour nous, c'était un rêve quand on devait entendre parler de projet de 145 territoires. On les voit, nous avons 2 beaux bâtiments qui abritent 6 salles de classe et nous avons un joli bureau. Maintenant, avec le beau bâtiment ici, la première année, je suis arrivé à 603 élèves.
Aloïs Tamba plaide pour que l'État congolais ajoute d'autres bâtiments parce qu'à ce jour, son école reçoit plus d'enfants que prévu. De la ville de Boma, dans la province du Congo central, Paul Matendo, Radio Okapi.
Pendant ce temps, Kinshasa, les ponts Loboudi au quartier Kanluka, dans la commune d'Engaliema, est ouvert au public. Inauguration faite vendredi par le chef de l'État qu'accompagnait le gouverneur de la ville de Kinshasa. Cette œuvre, construite sur fonds propres de la ville, fait la joie des habitants. Il permet de relier le Kanluka à la commune de Selembao. Babel Mpongo Masimango, reportage.
Ce pont long de 158 mètres avec 9 de largeur vient désenclaver le quartier Kanluka. Dans la commune d'Engaliema, il est relié à la commune de Selembao via l'avenue Landou. Ce vendredi donc, c'est l'itinéraire que les deux personnalités ont emprunté sous les ovations de la population. Du Kanluka, ils sont allés jusqu'à Lembafoire en passant par le pont Louboudi d'abord, des avenues Landou, Chaba, Ngiringiri, Elengesa, Luanza dans la commune de Makala pour chuter sur Kikwit à l'entrée de la foire internationale de Kinshasa à Lemba. Des ouvrages construits sur fonds propres de la ville. Ces routes nouvellement construites permettent de désengorger les avenues Bypass, Lumumba, Victoire et Kasavubu. Plusieurs routes secondaires sont en construction dans la ville de Kinshasa ou en train d'être inaugurées. Sur les cas récemment de l'avenue Nzolana, Marine, Angaliema ou encore Roi Baudouin en plein chantier à Gombe, Kwango également à Kitambo. Mais beaucoup reste aussi à faire en matière de routes car plusieurs autres sont en état de délabrement avancé. C'est notamment le cas de l'avenue Kabambare.
Parlons de la situation sécuritaire. Au Nord Kivu, des affrontements sont signalés ce dimanche matin vers Kilolirwe. C'est sur l'axe Sake-Kichanga dans le territoire de Masisi. Des sources concordantes à Sake parlent d'attaques des rebelles du M23 sur des positions des FARDC dans cette zone. Il paraît difficile de vérifier ce qui se passe sur le théâtre des opérations avec des sources officielles à Kilolirwe. La société civile de Sake signale un afflux de déplacés qui continue à arriver par dizaines de ménages. Faustin Cassolet plaide en faveur de ces personnes qui passent nuit à la belle étoile. Cependant, sur l'axe Kichanga-Mweso, toujours dans les Masisi, une accalmie relative est signalée depuis environ 3 jours maintenant, affirment les sources à Mweso. Notons enfin que le centre de Mweso reste sous occupation des rebelles selon la même source. Toujours au Nord Kivu, l'escalade des violences armées dans les territoires de Masisi accroît l'afflux des déplacés aujourd'hui éparpillés dans plusieurs territoires. Cette situation limite les interventions et prive les nécessiteux de l'aide humanitaire dans cette région. C'est ce que déplore l'organisation internationale Médecins sans frontières, MSF. Cette organisation qui intervient d'urgence dans cette zone parle de plus de 70 cas de blessés par balle depuis octobre dernier qu'elle a évacué de Masisi et référé à Goma pour la poursuite de la prise en charge. MSF évoque en outre plusieurs défis, notamment sécuritaires et d'accessibilité. Graham Inglis, coordonnateur projet pour MSF à Goma, est au micro de Denise Loukesso.
On essaie pour l'instant d'apporter un soutien en urgence en termes de besoins. Nos principes sont indépendance, neutralité et impartialité. On traite, ça ne dépend pas ethnie, religion, affiliation politique, ni groupe armé. Donc dès que quelqu'un est blessé ou malade, il devient un patient et on les traite. On a des défis. Parfois, on essaie de négocier avec tous les acteurs dans la zone d'assurer qu'ils connaissent MSF, nos activités, qu'on arrive à apporter un soutien à la population. N'importe qui. Et le deuxième défi en termes d'accès à l'état de la route, surtout entre Sake et Masisi Centre, ça se dégrade énormément. Pour l'instant, il n'y a pas de passage pour nos véhicules, pour les intrants des médicaments pour aller à Masisi Centre. Chaque fois, il y a des affrontements qui empêchent notre accès. On sait qu'il y a des gens malades, des gens blessés qui n'ont pas accès aux soins. Donc, il y a la population qui souffre à cause de ça. Donc, on appelle tous les acteurs de respecter le droit international humanitaire, de protéger nos véhicules, nos staffs, toutes les structures médicales ainsi que la population civile.
Préservant plusieurs années pour construire l'Ituri, que détruire cette province à ces quelques jours de la campagne électorale. Appel du sénateur John Tibasima Bogemu devant la presse à Bounia hier samedi. Ces notables de l'Ituri encouragent tous les candidats en lice pour la députation nationale et provinciale des territoires d'Irumu, Djougou, Mambasa, Mahagi, Aro et de la ville de Bounia de privilégier l'unité et la cohésion de tous les Ituriens sans distinction. Il appelle la population de la province déjà meurtrie par les conflits armés à consolider les acquis de développement et les efforts fournis par les autorités à Bounia et dans les autres territoires. Un extrait de ses propos est recueilli par Martial Kiza Biamungu.
Je voudrais, pendant cette période de campagne électorale, apporter mes encouragements à la population de l'Ituri. Et ceux qui sont en compétition, ce ne sont pas des ennemis. Il faut éviter de considérer que la période durant laquelle les inimitiés doivent s'exprimer. La campagne dure 30 jours, la vie dure plusieurs années. Préservons plusieurs années. On est en compétition, on se respecte, on ne s'insulte pas et on fait la campagne pour son candidat. Et je crois que si on y va de cette manière-là, tout va se faire normalement. Et nous pensons qu'avec tous les efforts qui sont actuellement en cours, principalement dans la ville ici, vous voyez qu'il y a une très bonne évolution en ce qui concerne les axes routiers. Mais n'oubliez pas non plus les aspects de courant. Il y a des pourparlers qui sont en cours pour apporter de l'énergie à Mahagi, à Aru, à Bunia.
Rendons-nous au Sud Kivu. L'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, qui a répertorié 4 délits principaux de presse commis par quelques journalistes des médias de Bukavu. Et c'est au cours du trimestre dernier comparé aux 12 cas de délits répertoriés au deuxième trimestre de l'année en cours. Ce rapport a été porté à la connaissance des professionnels des médias vendredi dernier. Darius Kitoka, président de l'UNPC du Sud Kivu, au micro de Jean Kassami.
Chaque 3 mois, nous devons évaluer le travail qui a été fait au niveau de la presse dans notre ville de Bukavu. Nous sommes dans une région très sensible et si le média ne se comporte pas professionnellement, on risque encore de sombrer dans des déboires et peut-être appeler la population encore à des soulèvements ou à des actes qui ne vont pas dans le même sens que la recherche de la paix. Voilà pourquoi la centrale de monitoring aujourd'hui a encore une fois confectionné quelques dérapages et quelques écarts par rapport à ce que demande notre code d'éthique et de déontologie professionnelle et communiqué aux médias ce que cette centrale a constaté dans les comportements autant personnels que collectifs. Il n'y a eu que quelques médias qui ont été monitorés. On a relevé que 4 délits principaux dans le média. Le semestre passé, on est arrivé jusqu'à 12 et on peut estimer que peut-être les remarques qui ont été formulées au courant du trimestre passé ont été entendues et aujourd'hui on a eu quand même une certaine baisse, mais on continue à être regardant.
Vous le savez, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles est célébrée le 25 novembre de chaque année. Cette journée marque également le début de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. À cette occasion, Nextcor, société propriétaire du média en ligne actualité.cd, avec l'appui d'Internews, a organisé samedi à Kinshasa une séance d'échange avec les activistes et journalistes sur cette question en mettant un accent particulier sur les contextes électoraux. Objectif, sensibiliser les activistes à se faire entendre pour que la question des violences à l'égard des femmes soit intégrée dans les débats publics, notamment dans la sphère politique. On écoute l'une des intervenantes, Madame Espérance Bayedila, professeure des universités et communicologue au micro de Grace Amzati.
Même si c'est une minorité qui se représente, mais les femmes sont électrices. Elles sont majoritaires. Alors, il faut qu'elles prennent conscience de la situation, que ce sont des personnes importantes qui peuvent très bien changer la donne dans notre pays pour que nous ayons justement un pays qui va de l'avant, où il y a des changements qui se font en profondeur. Si elles sont candidates, elles doivent être visibles. Il faut qu'elles prennent part au débat, qu'elles parlent, qu'on sente qu'elles sont là. Elles savent très bien défendre les dossiers, qu'elles aient un discours qui va attirer les gens. Si elles sont électrices, eh bien, qu'elles élisent en âme et conscience pour que les choses changent dans notre pays. Vous savez qu'en période électorale, c'est une période de bouillonnement. Les gens sont dans la rue en train de faire la campagne. Il faut que la femme soit consciente de cela, que nous sommes dans une période où il y a risque de violence, violence physique ou psychologique. Dans ce moment-là, il faut qu'elle prenne conscience pour justement se préserver. Donc, elle doit être consciente de ça, que la période que nous passons maintenant, c'est une période qui peut dégénérer.
D'autres intervenantes, notamment Grace Lula, activiste, et Christelle Vuanga, députée nationale, ont insisté sur la sensibilisation et l'éducation des bases pour que la question du genre soit prise en considération à tous les niveaux. Le marché de l'artisanat congolais dénommé Sokosoko Bazar se tient depuis hier samedi à la Maison de France à Kinshasa. Cette initiative de l'Union des Français de l'étranger offre 2 fois par an une vitrine aux artisans et autres artistes congolais, surtout ceux travaillant dans le recyclage, et l'occasion d'exposer, faire connaître leurs produits et de trouver des potentiels acheteurs. Pour cette dernière édition de l'année qui se clôture ce dimanche à 18h au moins, 70 artisans ont répondu présents. Babel Mpongo Massimango s'y est rendu. Reportage.
Parmi les articles exposés, on trouve des vêtements, des sacs à main, des paniers, des plateaux, des masques, des bijoux, des objets décoratifs, des poupées. Entre autres matières utilisées, le bois, la céramique, l'ivoire, le tissu, les fibres, les perles, l'argent, le fer, la malachite. La grande partie a une particularité, ce sont les fruits de recyclage. C'est le cas de ce miroir avec son cadre en bouchon de champagne, de cette girafe multicolore en fil de fer et capsule de café, de ce poupée de ces danseuses noires en fil de fer, bois et chute et tissu, de ce bonhomme de neige fabriqué avec des gobelets en plastique, œuvre des patients souffrant de maladies mentales du centre Téléma de Kintambo, de ces napperons en bouchon ou en fibre de bananier, ou de ces tableaux en fibre de baobab. Du point de vue alimentaire, il y a des tisanes, des jus, du café, du chocolat, des graines de chia et autres. Les exposants viennent de Kinshasa, mais aussi d'autres provinces comme le Nord Kivu. Nous voulons amener les étrangers, et surtout les Congolais, à découvrir et soutenir leurs artisans en achetant leurs produits. Il y a beaucoup de talent, nous a affirmé Raphaël Wanzio, un des organisateurs de ce marché.
Actualité internationale.
Au Madagascar, André Rajoelina, 49 ans, est réélu président de Madagascar à l'issue du premier tour d'un scrutin que 10 candidats de l'opposition avaient appelé à boycotter, a annoncé samedi la commission électorale. Rajoelina, qui part pour un second mandat à la tête de la grande île de l'océan Indien, a remporté un peu moins de 59% des voix lors du premier tour du scrutin qui s'est tenu le 16 novembre, selon les résultats de la commission présentés lors d'une conférence de presse à Antananarivo. Environ 46% des inscrits se sont déplacés selon la CENI malgache.
L'invité.
À Bunia, plus de 650 déplacés venus des quatre sites de Bunia ont reçu une aide humanitaire en cash du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce ravitaillement est le fruit d'une collaboration avec le gouvernement provincial. Et pour cela, nous recevons dans ce journal le chef de bureau par intérim du HCR Bunia qui nous parle des solutions durables envisagées par cette agence pour permettre à ces déplacés de prendre une vie normale en dehors du site. Ulrich Nobisi répond aux questions de Marie Nema Magira.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on retrouve ici le HCR avec les déplacés qui sont en train de recevoir de l'aide. On aimerait un peu comprendre en quoi consiste cette aide.
Ok, merci. Pour que vous compreniez mieux de quoi il est question, il faut peut-être que je vous situe dans la genèse même de cette activité-là. Il s'agit en fait des activités de solutions durables en faveur des personnes déplacées internes dans la province de l'Ituri. C'est un projet qui a été enclenché dans la province de l'Ituri par les autorités de la province et c'est un mouvement qui est soutenu par les agences du système des Nations Unies, les ONG qui interviennent dans le secteur de la paix aussi. C'est tout un projet qui vise la recherche et à la matérialisation des solutions durables en faveur de ces déplacés internes. Nous avons entamé un processus avec les déplacés qui sont actuellement installés sur le site de Kigonze, sur le site ISP. Nous avons également des déplacés qui viennent des sites de Mbala, Bembeï. Les solutions durables vise aussi à mettre fin au déplacement. Ce sont des personnes qui sont déplacées pour la plupart depuis les années 2019 et qui sont sur les sites depuis déjà un bon bout de temps, d'autres même depuis un peu plus longtemps que ça. Et il est question donc de travailler avec ces communautés, avec toutes les autres parties prenantes, à voir comment on peut progressivement sortir tous ces déplacés de la situation dans laquelle ils se trouvent dans les sites de déplacés pour justement s'autonomiser dans la perspective justement des solutions durables à leur faveur. Il faut dire que le HCR, comme certains autres acteurs aussi humanitaires, a reçu des fonds, quelques fonds, qui permettent aussi au HCR aujourd'hui d'envisager les constructions de logements pour ces personnes déplacées. Et comme vous pouvez le constater, ce sont des personnes qui viennent recevoir un petit appui qui va leur permettre d'engager les travaux de construction, donc voilà un peu. Oui.
On voit que c'est un petit nombre par rapport à l'effectif, on peut comprendre les motivations du choix de ce nombre-là?
En fait, il n'a pas été question d'avoir un choix qu'on pourrait qualifier de discriminatoire parce que nos actions se font de façon non discriminatoire. Avant d'arriver à ce stade du processus, il a été question aussi de réaliser une enquête d'intention au départ pour voir un peu sur les différents sites, quelle est la proportion des déplacés qui souhaitent par exemple le retour dans les localités de provenance, quelle est la proportion qui souhaite l'intégration locale et quelle est la proportion qui souhaite la relocalisation ailleurs que dans la ville de Bounia. Et c'est à l'issue de tout ce processus que nous avons pu collecter un certain nombre d'informations, de données qui nous ont permis d'arriver à la conclusion que 83% souhaitaient vraiment l'intégration sur place à Bounia et dans ses environs. Nous avons donc procédé par une certaine sélection pour pouvoir avancer dans le processus. Il a été question à travers des critères qui ont été partagés pour aller vite avancer dans le processus, de voir parmi ces personnes qui ont déplacé, qui se trouvent sur les sites, quels sont ceux-là qui disposent par exemple d'une parcelle. Et ça nous permet aujourd'hui de commencer avec un premier nombre de ménages, premier ménage, qui vont être appuyés, qui vont être soutenus véritablement dans ce processus de construction des logements, de leur habitation, et qui, on espère, dans les prochaines semaines, les prochains jours, pourront quitter les sites pour intégrer leurs nouvelles habitations et se reprendre pleinement à main en ce qui concerne la vie quotidienne. Voilà.
Mais maintenant, pour terminer, ça ne se passe qu'à Bounia. Qu'en est-il des déplacés d'autres territoires?
Ils ne sont pas oubliés. Les solutions durables, ce n'est pas pour une seule catégorie de déplacés. Non, il y a un travail continu qui est mené. On a actuellement les collègues de l'OIM qui sont en train de mener une enquête sur les zones de retour potentielles. Ce travail permettra qu'on voie clairement quel est l'existant en termes de services sociaux de base, qu'on voie un peu qu'est-ce qu'il faut reconstruire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, on reviendra vers les déplacés avec ces nouvelles informations et ça permettra certainement de revoir s'il y a des changements dans les intentions de retour et autres. Et nous sommes en train de travailler également avec les chefs de chefferie, on travaille avec les décideurs en fait. Il y a eu des ateliers qui ont été organisés ici à Bounia où on leur a présenté déjà ce que c'est que les solutions durables et qu'est-ce qu'on entend mener aussi dans leur territoire. Donc, c'est pas que les déplacés de Bounia qui sont ciblés. À moyen et à long terme, on aimerait bien que l'ensemble des déplacés de la province de l'Ituri bénéficient des solutions durables. En fait, nous sommes en quête permanente de ces solutions durables en leur faveur.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Et c'est la fin de cette édition du journal, supervisée par Alain Hirong, coordonnée par Jacques-Yves Molima, mise en onde par Alain Goy et présentée par Fulbert Balolagué. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci.